Deuxième partie de l'étude de Tisha B'Av. Après avoir parlé des événements qui ont touché Am Israël jusqu'à la Mishnah, des interdits qui sont en rapport direct avec ces événements, après avoir parlé des différents événements après, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la Shoah, et les autres interdits qui vont en rapport avec cela, eh bien, je me suis dit que on ne pouvait pas ne pas parler non pas de la raison toranique de Tisha B'Av, mais de passer un petit peu sur la raison historique des premiers Tisha B'Av, qui est beaucoup moins connue. Alors, je vous rassure, on va pas refaire ce qu'on a déjà fait. Non, on va se concentrer sur les deux événements qui, évidemment, pour nous, sont les plus révélateurs de Tisha B'Av aujourd'hui. Car aujourd'hui, on l'a déjà dit, bien des choses ont été retrouvées. C'est-à-dire que on a retrouvé ce que l'expulsion des Juifs d'Angleterre nous avait enlevé, on a retrouvé ce que l'expulsion des Juifs de France nous avait enlevé, on a retrouvé ce que l'expulsion des Juifs d'Espagne nous avait enlevé, on a retrouvé un début de paix et Am Israël a retrouvé sa grandeur. Donc, ça, pour ce qui est des 5 interdits, des 5 événements post-Mishnah, on va dire que c'est plus ou moins bon. Par contre, les premiers événements, alors effectivement, on est rentré en Eretz Israël, ça c'est bon. Effectivement, on a reconstruit Jérusalem, ça c'est bon. Effectivement, on a retrouvé notre souveraineté, ça c'est bon. Par contre, et c'est ce qui nous manque aujourd'hui cruellement, c'est destruction du premier et du second temple. Alors aujourd'hui, je voudrais voir comment en est-on arrivé à la destruction du premier temple et du second temple. Alors on va pas faire une étude toranique, comme je vous ai dit. Car effectivement, nous le savons bien, le premier temple a été détruit à cause de Avodah Zarah, Shfichut Damim, Gilui Arayot, l'idolâtrie, le meurtre, les relations interdites. Alors que le second temple, eh bien, à cause de Sinat Rinam, la haine gratuite, il y a beaucoup d'autres raisons morales qui sont données dans le Talmud. J'aimerais aujourd'hui m'intéresser aux raisons historiques. Les amis, nous repartons près de 3000 ans en arrière. Et 3000 ans en arrière, nous arrivons à Mamlechet David, à la royauté de David. On est en l'an moins 1004, David devient roi d'Israël. Il choisit Jérusalem comme capitale et commence à réunir le peuple. Sous son fils, Shlomo, eh bien, on construira le Beth Amikdash également. Et nous sommes en l'an moins 961, tout se passe bien. Le problème, c'est qu'à la suite de Shlomo, à la mort de ce dernier, eh bien, comme vous le savez, son fils, Rechavam, va tout simplement décider d'asservir le peuple juif beaucoup trop, si bien qu'il va y avoir une révolution interne. Et le schisme, la séparation en deux royaumes, oui, tout à fait, et en moins 921, c'est le schisme. Royaume de Israël au nord, de Yehuda au sud. Très bien. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes deux petits royaumes qui sont entourés de géants autour de nous. Et le géant en question, le plus connu, c'est l'Égypte. Mais il y a un autre géant très connu, il s'appelle Ashour. Et Ashour, la Assyrie, fait peur à tout le monde. Si bien que nous, Ashour ne reste pas en reste, comme on dit, et Ashour va tout simplement faire un petit tour dans la région pour montrer à tout le monde qui est le patron. Le royaume d'Israël, qui payait un tribut à Ashour à un moment donné, a décidé d'arrêter de payer son tribut, se mettant avec l'Égypte en disant « Eh bien, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, yallah !» Seulement, l'Égypte n'est pas du tout en mesure de les aider. Ils sont eux aussi battus par Ashour et finalement, les Assyriens vont détruire le royaume d'Israël. Nous sommes en moins 721. Le royaume de Yehuda continue un tout petit peu à résister, tout simplement en payant ses impôts à Ashour, mais en moins 701, le roi Chizkiyahou, lui aussi, décide d'arrêter de payer ses impôts. Les Assyriens arrivent. Ils essayent de nous massacrer, et là, nous le savons, grande victoire de la part d'Israël, un miracle extraordinaire qui est mentionné dans le Tanakh, et Dieu sauve son peuple, les Assyriens tombent. Oui, mais c'est pas pour nous rester pépères. C'est vrai, Chizkiyahou a créé une alliance. Avec qui ? Avec l'autre nouvelle superpuissance qui est en train de monter, Babylone. Et Babylone va ne faire qu'une bouchée de la Assyrie et devient le nouveau super patron de la région. Seulement, au fur et à mesure des années, les rois de Judée, qui sont des vassaux en fait de Babylone, commencent à se révolter un tout petit peu. Si bien que le roi Tzidkiyahou, qui avait été mis en place par Babylone, lui aussi se révolte. Les Babyloniens arrivent et sous couvert de ces révoltes-là, eh bien, viennent détruire Jérusalem et le Beth Amikdash en moins 586. À partir de ce moment-là, c'est le premier exil. Les Babyloniens, pendant 52 ans, règnent sur toute la région. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Il y a un autre empire qui arrive. Ce sont les Iraniens de l'époque, les Perses. Les Perses vont battre les Babyloniens. Et le roi Koresh, Cyrus, va donner la permission, entre parenthèses, pas tellement parce qu'il a bon cœur, mais parce qu'il voit en cela une façon de se créer une cour de vassaux qui vont l'adorer. Il donne la permission à tous les peuples qui avaient été emmenés en exil par Babylone de rentrer chez eux, de reconstruire leur temple et de faire leur religion. Eh bien nous, nous faisons partie de ces peuples-là et nous commençons à rentrer. D'abord avec Zerubbabel ben Shealtiel, après sous l'impulsion de Ezra et de Néhémie surtout. On reconstruit Jérusalem, on se réimplante, on construit le Beth Amikdash, petit à petit. Seulement, eh bien, l'empire perse, qui se croyait invulnérable, eh bien, va se faire attaquer et conquérir par Alexandre le Grand. Et tout d'un coup, la région devient sous la domination des Grecs. Bon, bah, tout ça, c'est très bien. Au début, c'est Alexandre. Personne ne discute avec Alexandre. Une fois qu'il meurt, ses généraux se disputent son empire et Israël est dominé pendant une centaine d'années par les Ptolémées. Ça se passe pas trop mal. Alors, effectivement, nous sommes sous domination grecque, mais les Grecs sont assez tolérants, ça se passe. Finalement, il y aura un combat à Banias qui va faire que la terre d'Israël devient non plus sous le contrôle des Ptolémées qui sont en Égypte, mais sous le contrôle des Séleucides, des Séleucos, qui sont eux plus en Syrie. Et là, au début, ça se passe toujours bien pour nous, mais finalement, les rois Séleucides, et particulièrement un qu'on connaît très bien, Antiochus IV, commencent à vouloir imposer l'hellénisme également en terre de Judée. Des Kohanim corrompus choisissent de passer à l'action et demandent à Antiochus de se faire nommer Kohen Gadol. Et en retour, eh bien, ils lui donneront les trésors du Beth Amikdash. 2-3 Kohanim qui vont essayer jusqu'à Ménélaos. Et Ménélaos, qui est très proche d'Antiochus IV, se fait renverser par les Juifs qui n'en peuvent plus. Antiochus arrive, c'est le début de la guerre de Hanouka. Pendant une centaine d'années, après la victoire des Juifs, nous retrouvons notre indépendance. Nous avons, ça y est, un État juif indépendant. C'est la Géoula du Second Temple. Sauf que ça ne va pas durer très longtemps. Parce qu'un des alliés de Yehuda Maccabi contre les Séleucides n'est autre que Rome. Et oui, Rome est pour l'instant encore un petit peu de sa noix. Mais on crée une alliance avec eux. Si bien qu'après la victoire des Hachmonaïm, et après la grandeur de Rome, parce que Rome devient très grande à ce moment-là, une centaine d'années, ça lui a suffi pour devenir, pas encore un empire, mais une république qui domine toute la Méditerranée, eh bien, qu'est-ce qui se passe, les amis ? C'est pas compliqué. À un moment donné, les Romains décident de rentrer également en Judée. Ils sont un petit peu invités par deux frangins, Aristobulus et Orchenus, numéro 2, les deux, qui décident d'inviter les Romains pour régler un problème interne entre les deux frangins. Oui, car ce sont une fois de plus les Juifs qui se divisent entre eux. Les Romains arrivent, bon, d'abord avec Pompée, mais finalement, une fois que l'Empire romain est là, eh bien, c'est terminé. Alors, on va avoir une petite semblant d'indépendance avec le roi Hérode, qui est pseudo-juif, qui déteste les Juifs et qui adore les Romains, et qui va décider tout simplement, eh bien, de se faire élire roi des Juifs au Sénat de Rome. Bon, tout ça très très bien, mais une fois que Hérode est en place, avec l'appui de l'armée romaine, eh bien, il peut faire ce qu'il veut. C'est un grand malade, mais un grand malade. C'est-à-dire qu'il construit énormément. Bon, c'est quelqu'un aussi, il ne faut pas être à côté de lui parce que tu risques de mourir, mais c'est un constructeur hors pair. Lui et ses ingénieurs, et ils vont construire entre autres, évidemment, vous connaissez Masada, vous connaissez Maharata Marpella, tout le Mivné, tout le bâtiment autour, vous connaissez le port de Césarée, et évidemment, le Beth Amikdash. Eh oui, il fait ce qu'on appelle un pinouille-binouille. Il va tout détruire et tout reconstruire en version énorme. Tout ça, c'est bien beau. Mais lorsque Hérode meurt, ses fils n'arrivent pas à garder la cohésion. Ce sont les Romains qui reviennent. Et cette fois, la Judée devient une province romaine. Province romaine avec des procurateurs de Judée plus ou moins sympathiques, ou plutôt plus ou moins pas sympathiques, jusqu'à ce que les Juifs n'en peuvent plus. Et en l'an 66, lancent une révolte contre les Romains. Révolte contre les Romains qui va durer 4 ans et qui va se terminer avec non seulement la destruction de Jérusalem et du Beth Amikdash, mais 3 ans plus tard, la chute de Masada, qui mettra fin à la Grande Révolte. 63 ans de soumission, de vie terrible, et finalement les Juifs décident de ressortir en guerre contre les Romains en l'an 132. C'est la guerre de Bar Corba, qui prendra fin 3 ans plus tard et qui mettra le point de départ final à l'exil. La destruction du premier temple en -586 et du second en l'an 70, eh bien, forme les deux événements que nous n'avons pas encore réussi à corriger. Ainsi bien, nos sages nous diront que chaque génération où le temple n'est pas construit doit se voir comme une génération dans laquelle il a été détruit. Il faut absolument que nous commencions à nous intéresser, et ça doit être le propos de Tisha B'Av, de ce qui nous manque lorsque nous n'avons pas le Beit HaMikdash, pour pouvoir vouloir le reconstruire, et le reconstruire cette année, Bimera, Beyamenu. Amen. À bientôt les amis.